cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Cultivons notre jardin avec Jackie, c'était Nat. Salut Jackie, comment tu vas?
Ça va bien. Je te rappelle le titre complet de notre émission, c'est Cultivons notre jardin, mais pas que, et justement on est dans le mais pas que.
Et voilà, et cette année on va innover parce que alors, ça fait un peu plus de 2 ans je crois Jackie que tu nous prodigues tes bons conseils sur le jardinage au naturel.
Oui, largement, plus de 2 ans, oui, je crois.
Oui, oui, tranquille. Et du coup, toutes ces émissions sont enregistrées et disponibles et téléchargeables sur le site internet de 48FM, 48FM.org. Ce qui fait que pour les conseils jardinage, on fait jamais le tour de ce genre de questions, mais on a beaucoup œuvré et on a une base de données un petit peu intéressante que tout le monde peut aller voir. Bien sûr, c'est facile, hein, en fonction de la période dans laquelle vous cherchez une information, vous allez télécharger l'émission de la période qui correspond de l'an dernier ou de l'année précédente. Ça fonctionne toujours, on est d'accord Jackie?
On est d'accord, en plus il y a dans le titre de l'émission il y a un petit peu de quoi ça traite, hein. Donc savoir aussi pour les auditeurs que s'ils ont des questions particulières sur le jardin, on est toujours à leur écoute, qu'ils fassent passer ça par la radio et il n'y a pas de souci, on pense toujours à eux, on s'éloigne pas des jardiniers, moi je suis jardinier à vie.
C'est exactement ça. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on va redémarrer cette nouvelle année, cette nouvelle saison 2021-2022. J'ai dû rater une année au passage. Donc tout ça pour vous dire que cette nouvelle mouture qu'on vous propose pour Cultivons notre jardin, mais pas que 2021-2022, donc c'est plutôt de s'élargir. Alors la préservation de l'environnement, ça c'est sûr que c'est notre credo principal, mais là on va l'élargir parce qu'il y a plein de petites choses qui se passent, qu'on a bien envie de sortir. Et qu'est-ce que t'en dis Jackie?
Et voilà, et on a pensé à vous pendant cette période difficile. Et puis en fait on prend le courant de la biodiversité, hein, parce que grâce ou à cause en tout cas des perturbations qu'on peut avoir un petit peu partout, et on se rend compte que les gens commencent à prendre conscience de l'importance de tout ça, de sauver notre biodiversité ou autre, le développement durable, les conséquences du climat et tout ce qui s'ensuit. Et puis donc on va essayer de suivre des associations qui s'occupent entre autres de tout ça.
Et voilà, et l'idée c'est d'essayer de les suivre quand ils font des sorties nature, découvertes, etc. pour vous transmettre les informations tout simplement et de faire parler un petit peu les naturalistes présents qui peuvent vous donner de précieuses indications. Voilà, l'idée principale, la première c'est de vous proposer les sorties avec un agenda, mais surtout, si vous ne pouvez pas y aller, eh bien écoutez, avec Jackie, nous on sera toujours là pour vous faire une retransmission de l'événement.
Voilà, et ne serait-ce que pour vous faire regretter de ne pas y être allé et puis de vous informer pour aller à la prochaine. Enfin, c'est vraiment dans ce sens-là, hein. On a tous besoin les uns des autres. Alors aujourd'hui, on est le 2 octobre, là, est à Bec de Jeu.
C'est un jour important.
Voilà, et donc on vient d'assister à la création de la délégation territoriale de la LPO pour la Lozère.
On est là.
Quelques précisions. La LPO, ça existe depuis plus de 100 ans. Depuis quelques temps, là, ils se sont réorganisés. Alors, réorganiser, ça veut dire qu'en fait, on a 13 grandes régions en France. Il va y avoir 13 LPO de la région. C'est-à-dire que nous, ici, c'est la LPO Occitanie. Hein. Il y a quelques départements, 13, je crois, qui constituent cette LPO Occitanie, et à l'intérieur des départements ou des territoires, il y aura ces délégations territoriales. Et donc ici, en Lozère, il vient de se créer la délégation territoriale Lozère de la LPO Occitanie.
Voilà, alors ce matin avec Jackie, ben, du coup, on a passé la matinée enfermée, c'était trop dur. En réunion, on était près d'une cinquantaine de personnes, donc ça c'est plutôt positif, de personnes qui sont intéressées voilà, par la création de cette délégation de la LPO en Lozère. Et voilà, tout le monde a un petit peu pu s'exprimer. On a le président national, le président régional Occitanie, Pierre Maigre, qui nous a présenté un petit peu toute l'histoire de la LPO. C'était fort intéressant et puis voilà, on en est arrivé à la déclinaison lozérienne.
Voilà, et donc ça se passe sous les meilleurs auspices. Beaucoup de personnes, hein. Il faut savoir que rien qu'en Lozère, en fait, il y avait déjà 67 personnes qui cotisaient à la LPO. Hein, et donc ces personnes, pour l'instant, on était sous l'égide de la LPO 12, hein, qui elle-même s'est dissoute pour faire une délégation territoriale Aveyron.
Elle est rentrée dans la LPO Occitanie.
En rentrant dans la LPO
Occitanie.
Voilà,
c'est ça. Tout le monde s'est regroupé, en fait.
Et puis voilà. Et puis nous, en fait, en Lozère, on va avoir la délégation territoriale Lozère qui est actée déjà par la LPO Occitanie. Alors donc, après les assises départementales, hein, ça s'appelle comme ça, une espèce d'AG en fait, après un repas partagé, on va essayer de vous faire participer à notre manière à cette réunion.
C'est ça. Moi, je vais faire un petit peu le tour des gens qui sont présents et qui ont des choses à raconter, soit sur la LPO, soit sur les oiseaux, soit sur l'environnement de manière générale. Et je vais les interviewer pendant que tu vas retourner t'enfermer, Jackie, pour travailler un peu, s'il te plaît.
Oui, cet après-midi, entre deux, on va peut-être manger. Mais voilà, on va essayer de vous faire vivre cette journée. En tout cas, c'est nos nouvelles idées. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur le site de la radio parce que ça nous intéresse. Est-ce que vous suivez notre nouvelle forme d'émission ou pas? On est ouvert à toutes les remarques, voire reproches.
Ou toutes les remarques constructives, on prend.
Voilà.
Bon, écoute, je te propose, Jackie, qu'on aille manger un morceau parce qu'on a déjà beaucoup travaillé, nous, ce matin. Donc, on va aller manger un morceau. On va vous laisser un petit peu en musique. Hein. Et puis, alors, pour ouvrir l'émission, on a choisi avec Jackie Pierre Perret, avec La Cage aux Oiseaux. Et on vous retrouve tout de suite après. Je vous retrouve pour les interviews avec nos amis naturalistes et autres délégués de la LPO.
C'est le petit clin d'œil LPO.
Voilà, ce sera que les oiseaux, les chansons. À tout à l'heure.
Idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage! Mes chères madames, on vous demande au troisième étage. et des clavignoles au radeau tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte.
Bon ben, nous voilà de retour après cette courte pause musicale. Enfin, nous, Nathalie, toute seule, puisque Jackie est partie en réunion. Et j'ai juste eu le temps d'attraper Monsieur Maigre, donc, qui est le responsable LPO Occitanie. On dit comment? On dit responsable
Président de l'association.
Président, tout simplement. Fait. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Enchanté d'être avec vous pour le moment. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici en Lozère avec deux jeux.
La LPO est une très vieille dame puisqu'elle a été créée en 1912. Maintenant, la LPO Occitanie, elle, est une toute jeune fille puisqu'elle a été créée le 1er janvier dernier, le 1er janvier donc 2021. Ce sont plusieurs associations LPO qui se sont réunies, dont l'Aude, l'Aveyron, le Lot et l'Hérault. Et nous avons décidé, en créant cette association régionale qui répondait à un réel besoin, puisque nous avions 4600 membres répartis sur les 13 départements, et certains départements que nous qualifions d'orphelins, n'avaient pas de structure LPO et ne pouvaient pas donc réaliser un certain nombre de manifestations, d'activités.
C'était notre cas en Lozère, où les adhérents qui jusque-là adhéraient à la LPO au niveau national étaient plutôt orientés sur l'Aveyron.
Tout à fait.
Voilà.
Or, le nouveau conseil d'administration de la toute nouvelle LPO Occitanie, qui souhaite se voir se développer des délégations territoriales dans les 13 départements de la région,
oui,
pour être à la fois au plus près de ses adhérents et au plus près des enjeux en termes de biodiversité, a décidé donc la création en juin dernier de la délégation territoriale Lozère.
Voilà, ça a été voté en juin dernier.
Par le conseil d'administration de la LPO Occitanie. Donc maintenant, c'était le coup d'envoi avec cette réunion qui a réuni, il faut le dire, pour un département comme la Lozère, beaucoup de monde.
Oui, intéressant, ouais, près de 50 personnes. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de gens motivés. Donc ça y est, la LPO Lozère peut enfin exister.
La délégation territoriale Lozère existe pleinement.
Ça y est, ça c'est parti. Et du coup, quels vont être les liens au niveau régional?
Alors, au niveau régional, il y a des liens d'échange d'ailleurs déjà entre les différentes délégations, mais la délégation Lozère, comme toutes les autres délégations, sera représentée au sein du conseil d'administration de la LPO Occitanie.
Qu'est-ce que vous considérez comme étant les principales missions de la LPO? Dites-nous-en un petit peu plus.
Déjà, autrefois, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, la LPO se concentrait essentiellement sur le monde des oiseaux.
Oui.
Maintenant, nous avons modifié au niveau national l'article 2 de nos statuts et nous intéressons et nous agissons sur l'ensemble des taxons de la biodiversité et je rajouterai et l'homme, car l'homme n'est jamais éloigné de nos préoccupations aussi.
L'homme fait partie de la biodiversité peut-être?
Tout à fait. En plus, c'est lui quand même qui a le plus d'emprise sur la biodiversité et c'est celui qui modifie le plus, pas toujours dans le bon sens, notre environnement.
Vous, au niveau de la région, de la LPO Occitanie, vous proposez des choses ou bien c'est uniquement les délégations départementales qui... Comment est-ce que ça fonctionne concrètement sur le terrain?
Ça fonctionne très bien.
Ça, j'en doute pas.
Donc déjà, effectivement, la LPO Occitanie peut donner des orientations, etc.
Oui.
Et monter des programmes qui seront déclinés au niveau départemental. Mais les départements aussi sont dotés d'une grande autonomie.
Bien.
C'est-à-dire que les Lozériens peuvent décider d'un certain nombre d'actions qu'ils développeront sur leur territoire. Avec l'appui de la LPO Occitanie,
voilà.
Mais sans lien de subordination, au contraire, avec le soutien, avec l'appui financier et autres de la LPO Occitanie. C'est aux Lozériens de définir la politique qu'ils veulent voir se développer sur leur propre territoire.
Je crois que c'est un petit peu l'objet du coup de la réunion de lancement là, de cet après-midi, de voir un petit peu où sont les besoins, qu'est-ce que les gens peuvent attendre. Mais on s'adresse à quel type de public quand on fait des sorties LPO ?
Tout public.
Voilà.
Tout public.
Et pas que des ornithologues confirmés, on est d'accord ?
Les ornithologues très pointus n'ont pas besoin des fois de suivre nos sorties ou nos animations, encore que. Mais en fait, généralement, c'est pas... Non, c'est le grand public.
Oui.
Et on s'aperçoit que depuis quelques années, et ça s'intensifie, et on avait une crainte avec ces problèmes de crise sanitaire que nous avons vécu, de voir un peu s'essouffler le mouvement et le nombre d'adhérents stagner ou baisser. On s'aperçoit que le nombre d'adhérents augmente plus rapidement qu'autrefois, parce que je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand on leur parlait de perte de la biodiversité, les gens, ça leur passait un petit peu au-dessus de la tête. C'était quelque chose de très abstrait. Maintenant, tous les jours, des gens nous disent, mais avant, on avait des hirondelles qui chez nous. Il n'y en a plus. Oh, il y a tel oiseau que l'on ne voit plus, ou tel papillon. Moi, qui ai des souvenirs d'anciens combattants, quand j'étais très jeune, mon père travaillait à 20 km de la maison et tous les soirs quand il rentrait, je me précipitais pour voir la calandre de la voiture. Et sur le radiateur, il y avait des quantités extraordinaires d'insectes, de papillons, d'abeilles, de bourdons qui étaient collés, morts, hélas. Aujourd'hui, on peut faire 400 km, on aura 3 moucherons sur le pare-brise. C'est bien là que l'on s'aperçoit vraiment, d'une manière très factuelle, de la perte de biodiversité.
Tout à fait.
Le réchauffement climatique, il y a ne serait-ce que 10 ans, les gens n'y croyaient pas. Même des personnes.
Il y a encore des gens qui y croient pas quand même. Il y en a qui y arrivent.
Il y en a qui ne croiront en rien et qui ne comprendront jamais rien.
Voilà. C'est pas une histoire de croyance.
Ce que je veux dire, il y a encore des personnes, y compris au plus haut niveau de l'État, il y a quelques années, qui disaient oui, d'accord, il y a peut-être un réchauffement climatique ou un bouleversement climatique, mais l'homme n'est pas à l'origine de ça. Aux États-Unis, c'était le discours de Donald Trump, par exemple.
Tout à fait.
Or, on s'aperçoit maintenant que c'est faux. Que c'est vraiment l'homme qui est à l'origine de ces déséquilibres, qu'il faut modifier d'une manière urgente nos pratiques, parce que demain il sera trop tard. On ne peut pas dire les générations futures traiteront le problème. Je crois que c'est nous qui bâtissons le futur pour les générations qui arrivent. On s'aperçoit qu'il y a un mois et demi, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute autorité judiciaire en France, décide que certains types de chasse sont... illégales, ces chasses-là. Je pense aux chasses avec des filets, des chasses avec des pièges, avec des collets pour attraper les grives et les merles. Je pense à la glu, Et que d'autres, et que des espèces, puisqu'en France, 64 espèces d'oiseaux sont chassables et plus d'une vingtaine sont sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature. Je pense à la tourterelle des bois pour n'en citer qu'une.
Non, c'est 64,
64 espèces chassables.
Voilà, dont une vingtaine finalement sont interdites ou il y a une vingtaine ?
Non, 64 sont chassables.
64 sont chassables.
Contre une vingtaine en moyenne en Europe.
Voilà.
Déjà.
Donc,
Ces 64, il y en a 20 qui sont en danger d'extinction.
Voilà.
Et on continue à les chasser. C'est quand même quelque chose de complètement surréaliste.
Voilà.
La tourterelle des bois, ses effectifs en 30 ans ont diminué de 80%. Mais qu'attend-on pour lui laisser un petit répit et attendre qu'elle reconstitue ses effectifs ? C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, dans un mois et demi après que le Conseil d'État ait statué sur les chasses, justement, dites traditionnelles, qui sont jamais que du braconnage déguisé, parce que ces espèces comme l'alouette, comme les grives, comme les merles, comme le vanneau huppé ou le pluvier doré qui sont concernés par ces chasses, peuvent quand même être chassés au fusil. Mais ça, on vient en rajouter. Maintenant, il y a un avant-projet de loi qui nous est proposé pour que, de nouveau, dans un mois et demi, ces chasses soient autorisées. C'est un véritable déni de justice.
Oui, mais c'est que c'est bientôt les élections présidentielles quand même.
Oui, mais la LPO sera présente au rendez-vous.
J'espère.
Pas forcément des élections, mais nous attendons de pied ferme la sortie de cet arrêté ministériel. Nous ne faisons pas beaucoup d'illusions. Mais dans les heures qui suivent, le dossier, notre recours sera au niveau du Conseil d'État. Et si, par hasard extraordinaire, le Conseil d'État se déjugeait, ce qui me semble peu probable, s'il se déjugeait, nous adresserons à la Cour européenne de justice.
Bon, très bien. Donc la LPO suit de près toutes ces questions d'actualité.
Oui.
N'hésite pas à aller en justice s'il le faut.
Oui.
Sur certaines questions. Ça, et c'est important.
Oui, et j'allais dire que la LPO n'est pas contre tout. Nous sommes contre
pour
ce problème cynégétique. Nous considérons qu'il y a des types de chasse ou des espèces qui ne devraient pas être chassées.
Voilà.
Nous ne remettons pas en cause le principe même de la chasse.
Voilà.
Et pour le développement économique, nous travaillons déjà avec des chefs d'entreprise, avec des industriels de l'énergie. Justement, nous les accompagnons pour que n'importe quoi ne se fasse pas n'importe où avec n'importe quel enjeu et n'importe quel résultat.
En amener un petit peu de connaissances, du coup ça permet aux gens de mieux comprendre ce qu'ils font, pourquoi, comment, etc. C'est bien, c'est bénéfique pour tout le monde.
On les accompagne pour qu'ils soient plus vertueux.
Voilà, exactement.
Je suis un homme heureux d'être là aujourd'hui, dans ce beau pays qu'est la Lozère, puisque c'est vrai, je viens du littoral et qui est très beau aussi, mais qui est très différent.
Complètement.
Et puis, j'étais très heureux de voir une salle pleine aujourd'hui, dans le département, comme je l'ai dit ce matin, quand même, qui est le moins peuplé de France.
Eh bien, finalement.
Ma foi, vous êtes en train de donner l'exemple.
Oh.
Et c'est une très bonne chose, compte tenu aussi des enjeux en termes de biodiversité qui sont dans ce département.
D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de
c'est
nous avoir accordé
remercie.
Un petit instant. Aux auditeurs et auditrices de 48 FM, et puis bon après-midi de travail.
Ça sera studieux, mais c'est pour la bonne cause.
Voilà, on est d'accord.
Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.
Merci Monsieur Maigre, bonne journée. Alors en fait, pour ces assises de la LPO Lozère, elles ont été portées au départ par un groupe de naturalistes en Lozère qui se sont un petit peu motivés pour essayer de faire plus sur le territoire en termes d'animation, en termes de etc. etc. Et j'en ai un justement là face à moi qui s'appelle Rémi Destre. Et bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Rémi. Alors quel est l'objet de cette journée et qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Alors, en résumé, je vais essayer d'être clair, bref et précis. Sur la Lozère, il y a des naturalistes, des ornithologues, des citoyens lambda qui s'intéressent aux oiseaux, qui s'intéressent à la nature. Et l'idée, c'est de se retrouver, de se motiver et de lancer une dynamique associative.
Bénévole, etc. Ouais.
L'idée, c'était d'abord de piocher dans le listing des adhérents de la LPO, nationale, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc, il y a des gens qui sont adhérents sur le département de la Lozère, je crois une 60aine ou quelque chose comme ça. L'idée, c'était donc de les faire se rencontrer. Et l'objet de ces premières assises, c'est se rencontrer. Donc, par voie de presse, on a informé par voie de presse et via Internet. On a informé toute personne désireuse sur le département de la Lozère de se retrouver avec ses adhérents de l'LPO pour dynamiser, pour lancer une dynamique associative. C'était l'objet de cette première journée, ce samedi 2 octobre 2021.
Et du coup, là, l'idée, c'est de recueillir un peu les forces vives, de voir dans quoi les gens sont prêts à s'investir bénévolement, ce qu'ils peuvent amener, c'est ça en fait.
C'est tout à fait ça. Alors, il se passe qu'au niveau régional, il y avait des LPO départementales qui fonctionnaient déjà, la LPO Aude, la LPO Aveyron, la LPO Hérault. Et ces LPO départementales, bien identifiées, se sont regroupées en une LPO Occitanie, une LPO régionale, cette année 2021. Donc, pour nous, c'était l'occasion d'attraper le train en marche et de se greffer sur cette LPO Occitanie régionale en devenant délégation territoriale LPO 48, LPO Lozère. Donc on est de ce fait aidé par la structure régionale qui porte la responsabilité légale de la LPO au niveau régional et on est une délégation. Une délégation, ça veut dire qu'on est un groupe de naturalistes, ornithologues, préoccupés par la protection de la biodiversité, puisque la LPO, c'est LPO, et Agir, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, mais Agir aussi pour la biodiversité, au sens le plus large. Et donc, ce sont des naturalistes dans cette dynamique-là qui se retrouvent aujourd'hui. Donc, le but, c'est d'abord se connaître. Ça sera de sensibiliser les personnes à la protection de l'environnement, de la nature. C'est de sensibiliser les personnes à à reconnaître, identifier les espèces pour savoir précisément de quoi on parle. Voilà un petit peu l'objet de notre structure départementale.
On protège mieux ce qu'on connaît, donc c'est ce qu'on connaît. Donc c'est effectivement très important de faire de l'information. Toi, est-ce que tu as un domaine de prédilection du coup ?
Bon, mon domaine de prédilection, c'est la nature en général. Je suis plus particulièrement branché sur tout ce qui est vertébrés sauvages. Donc les vertébrés sauvages terrestres, les amphibiens, les reptiles, les mammifères et les oiseaux. Voilà, c'est plutôt dans ce domaine-là que j'interviens, que je peux apporter mes compétences.
Plutôt vaste quand même comme domaine.
C'est déjà très, très vaste, puisque ouais. Ça représente, avec les vertébrés aquatiques, les poissons, ça doit représenter quelque chose comme 400 espèces sur le département de la Lozère, pour donner un ordre d'idée.
Bien. Alors du coup, l'idée de cette délégation départementale Lozère de la LPO, c'est de proposer des sorties supplémentaires naturalistes ou de sensibilisation à l'environnement. Vous avez déjà eu quelques idées là dans le groupe ?
Oui, bien sûr, on a des idées puisque ça fait déjà quelques années que sur le département de la Lozère, dans le cadre d'une autre association, nous avons participé, contribué à différentes enquêtes concernant le suivi des oiseaux, par exemple des oiseaux hivernants, des oiseaux d'eau hivernants sur le département, dans le cadre des comptages dits wetland international, c'est-à-dire qu'à mi-janvier, eh bien, on dénombre sur 4 sites de Lozère, le barrage de Naussac, le barrage de Villefort, Charpal quand le lac n'est pas gelé, voilà, on dénombre les oiseaux d'eau à mi-janvier. Donc ce genre de comptage, de sortie, bien sûr, on va le poursuivre. Ensuite, on intervient aussi sur les comptages de dortoirs de milans royaux. Les milans royaux étant ces rapaces qui hivernent dans le sud de la France. Et en Lozère, on a quelques dortoirs. Et fin janvier, courant janvier, on dénombre ces dortoirs. Donc on contribue, on participe aussi à ces comptages. Donc voilà pour l'avenir, on va continuer ce genre de suivi. On intervient aussi sur le suivi des busards, busards cendrés, busards Saint-Martin, deux autres rapaces qui sont en perdition actuellement, qui sont vraiment en difficulté. Les populations sont en train de régresser, voire même de disparaître ici ou là. Donc on essaye de les suivre très précisément, d'autant plus que ces busards ont cette fâcheuse tendance à venir nicher dans les parcelles cultivées, agricoles. Ouais. Et donc si on veut les préserver, eh bien, il faut un partenariat avec les agriculteurs pour préserver ces couples reproducteurs.
Et comment un agriculteur il peut savoir qu'il est confronté à ce problème-là ? Qu'est-ce qu'il a comme signe ?
Qu'est-ce qu'il a comme signe ? Eh bien, il a principalement le fait justement que les ornithologues, les naturalistes de la LPO et autres, en observant, repèrent des busards qui nichent dans les parcelles, et à ce moment-là, on interpelle les agriculteurs.
D'accord, c'est vous qui allez à leur rencontre, du coup, les naturalistes.
Sauf quelques agriculteurs qui ont maintenant pris l'habitude de voir revenir chaque saison des busards sur leurs parcelles et qui nous font signe maintenant, spontanément, quand ces busards sont de retour et ils nous informent des parcelles dans lesquelles ces busards s'installent. Alors dans ce cas-là, évidemment, c'est plus facile, la protection du busard étant relativement aisée à mettre en œuvre.
Et du coup, ça consiste en quoi la protection dans ces cas-là ? Quelle est la contrainte pour l'agriculteur ?
La contrainte pour l'agriculteur n'est pas très compliquée. Il suffit de protéger une surface de l'ordre 10 mètres par 10 mètres qu'on clôture avec une petite clôture électrique alimentée par une batterie solaire de manière à ce que des prédateurs ne soient pas tentés de venir dans ce petit carré qui va rester hors de la fauche, hors de la moisson si c'est dans une céréale. Voilà, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter parce que ça, c'est au printemps que ça se passe.
On en parle
là,
au printemps.
Là, on est plutôt à l'entrée de l'hiver, voilà.
Voilà, je suis habitante en Lozère et ça m'intéresse tout ça, la LPO, mais j'y connais pas grand-chose et j'ai entendu parler des comptages. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux rentrer en contact avec vous ? Et est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire même si je connais pas grand-chose ?
Alors, une autre de nos actions, c'est évidemment la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on organise aussi des sorties grand public, des sorties au sein de notre association, des sorties pour informer, permettre la découverte initier les personnes qui sont motivées à reconnaître la faune sauvage, mais à reconnaître aussi la flore, à reconnaître les différentes espèces de la nature et comprendre aussi leurs interactions que souvent, bien souvent, sont malheureusement ignorées. Les sorties sont programmées et seront programmées, et par voie de presse et par réseau internet, les adhérents seront informés de ces sorties.
Voilà, donc ouvrez l'œil et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter
l'association. La délégation LPO Lozère.
Merci beaucoup Rémi.
De rien, avec plaisir.
Et bon après-midi de travail.
Merci.
Me voici maintenant avec Tony, donc, qui est venu à cette réunion du jour aux assises de la LPO. Et est-ce que tu veux bien nous dire, Tony, qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment est-ce que tu as eu l'info? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Raconte-nous un petit peu, s'il te plaît.
Bonjour. Bon, j'étais déjà très intéressé, en fait. Je suis installé nouveau résident à Mende depuis très peu de temps. Et avant même d'arriver, j'avais déjà en tête comme idée de nouer un contact avec la LPO locale. J'avais fait des recherches préalables, je ne trouvais pas LPO Lozère. Je tombais sur le site Occitanie et ensuite les délégations départementales, mais sauf excepté celle de Lozère. Et le hasard a voulu qu'en allant juste dans dans une petite surface bio, sans citer le SAMI, j'ai effectivement trouvé
l'affiche qui présentait la journée là de création.
Exactement, voilà.
Tu étais déjà investi la LPO de ton département d'avant là
du tout.
Ou pas du tout
du
mais
tout.
Par contre, en venant à Lozère, tu avais cette idée en tête.
Exactement, voilà. En fait, j'avais on m'avait déjà, des proches m'avaient fourni des... Donc, je lis beaucoup, effectivement, voilà. Mais m'intéressant aux oiseaux de manière plus poussée ces derniers temps, ces dernières années. On m'avait fourni les magazines donc, de la LPO, l'Oiseau Magazine, avec spécial rapace. Donc, j'avais déjà lu quelques exemplaires et je savais que, dès que j'en aurai l'occasion, une bonne fenêtre de tir, une fenêtre météo.
Oui, on est d'accord. Hein.
Et ben voilà, je sauterai le pas et voilà.
Ok.
Voilà. Les rayons de Lozère m'ont indiqué la voie.
Bon ben super. Ouais. Et donc tu es là, du coup tu es prêt à investir un petit peu sur cette délégation territoriale.
Exactement. Voilà, bien. C'est ce que j'expliquais. Je suis prêt à quitter le nid confortable d'une vie plus ou moins confortable peut-être matériellement, tout ce qu'on voilà, peut-être moins moralement, voilà, quand on y réfléchit et exactement, voilà, j'étais prêt à quitter ce nid confortable pour m'investir un peu plus, effectivement, peut-être à la mesure de mes moyens, en tout cas, être
voilà.
Bienfaiteur de la plume.
Voilà. Bienfaiteur de la plume, c'est joliment dit. Bon, ben c'est chouette. Donc, du coup, un nouvel arrivant en Lozère qui déjà s'investit associativement, bénévolement, ça fait plaisir quand même. Bienvenue, du coup.
Ben, merci beaucoup. merci de l'accueil de toute la région qui est splendide, magnifique. Ben, je suis originaire de Bretagne. Il y a de très beaux coins
c'est
en France.
C'est vous aussi.
Mais c'est vrai que la Lozère, vous êtes béni des dieux.
Je crois, oui. On a
donc,
beaucoup de chance.
Voilà. Profitez pleinement, en tout cas, du pays et du ciel, surtout.
Bon, on essaye. Et en attendant, ben, merci beaucoup, du coup. Et bon après-midi de travail. Et puis, à très vite sur les chemins en sortie,
avec
puisqu'on va se promener avec Jackie.
Avec grand plaisir, avec grand cœur, la main sur le cœur.
Voilà. Merci, Tony. Alors maintenant, j'ai laissé Tony retourner un petit peu à sa réunion de travail parce que sinon, ils en profitent en fait. Et maintenant, je suis avec Jean-Luc Bigorne, donc qui est coordinateur, comment on peut dire, Jean-Luc, sur les rapaces. Là, les rapaces, c'est ta spécialité, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bonjour.
Bonjour, oui, donc en tant que bénévole, depuis que je suis installé en Lozère, donc j'ai pris en charge la coordination du suivi de certaines espèces de rapaces. Donc il y a le milan royal qui fait l'objet d'un plan national d'action, donc qui peut paraître assez commun en Lozère, mais c'est pas le cas dans beaucoup de régions où il était autrefois présent. Et aussi au niveau des busards, on a deux espèces qui nichent en Lozère, avec cette spécificité que comme ils nichent au sol, il y a parfois des interventions à faire en collaboration avec des agriculteurs, puisqu'on peut trouver des nids dans des champs.
C'est des oiseaux qui sont en voie de disparition. On en est où là par rapport au milan, les busards, tout ça?
Alors le milan royal ces dernières années apparemment est en train de redresser la barre.
Ah, bonne nouvelle.
On a certaines indications, entre autres le suivi de ceux qui passent les Pyrénées pour aller notamment en Espagne, avec des chiffres qui depuis plusieurs années sont en augmentation. Mmh. En Lozère, on a aussi clairement une petite augmentation sur les deux dernières décennies. Et ça, on aura plus de précision bientôt grâce à en fait une enquête spécifique qui a eu lieu sur les trois dernières années.
D'accord.
Qui a concerné à la fois le Milan Royal et les Busards, qui s'est fait par échantillonnage une enquête nationale et qui va permettre de réactualiser le statut de ces espèces.
D'accord.
Mais grosso modo, la situation du Milan Royal est assez disparate selon les régions, mais en Lozère, il se porte plutôt bien.
Bien.
Mais il faut rester vigilant, car il y a des causes de mortalité qui sont en augmentation, notamment l'empoisonnement et les chocs mortels par les éoliennes. Mmh. Et donc, ça fait, au niveau national, ça fait plusieurs années qu'on bat tous les ans, on bat un nouveau record de cadavres retrouvés et on ne retrouve pas tout. Donc, il faut être très, très vigilant avec le Milan Royal.
Il y a des dispositifs quand même pour les oiseaux. Hein. On en parlait ce matin en réunion. Pour essayer d'éloigner les oiseaux des éoliennes, ça ne fonctionne pas hyper bien.
Oui, ça ne marche pas. On vient d'avoir, il n'y a pas longtemps, un retour d'un bureau d'études avec des mortalités qui sont assez effarantes en Occitanie sur les rapaces et notamment sur le Milan Royal.
Ah.
Donc pour l'instant, ça ne marche pas.
D'accord. Bon. Ça reste à creuser.
Voilà.
Mmh. Ok. Donc le Milan Royal, on en a pas mal. Les Busards aussi, tout va bien, mais on a aussi... Attention, j'ai dit
oui.
En Lozère, il se porte bien. On a dit ça, hein.
Oui, mais là, on parlait du Milan Royal. J'ai pas parlé des Busards.
Pas les Busards. Les Busards aussi, c'est plus compliqué.
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, depuis 20 ans, en Lozère, grosso modo, on va, en caricaturant à peine, vers la disparition de ces deux espèces en tant que nicheurs.
Ah.
C'est-à-dire qu'on avait en 2000 une enquête qui par exemple, pour le Busard cendré, annoncé 50 à 90 couples. On est aujourd'hui aux environs de 20-25 couples.
Ah, effectivement.
Et pour le Busard Saint-Martin, c'est à peu près pareil, sauf qu'il a des effectifs inférieurs. Donc là, on n'est plus qu'à une dizaine de couples en Lozère. Donc il y a une réelle inquiétude. On craint dans la décennie qui vient de perdre ces deux espèces en tant que nicheurs, sauf peut-être un seul endroit où il s'est stabilisé depuis quelques années, c'est au sein du parc national des Cévennes dans les vallées Cévenoles.
Ouais.
Car il y a une équipe qui tourne bien sur cette espèce. Et donc ils ont réussi en jouant sur la gestion des milieux naturels, notamment les landes, à maintenir un petit noyau de population. Mais il faut savoir que dans les années 90, dans le parc national des Cévennes, c'était des dizaines et des dizaines de couples qui nichaient. Et aujourd'hui, il en reste, avec la zone d'adhésion, on est à environ une dizaine de couples.
Oui, enfin ça fait 20 ans, c'est pas énorme en termes de temps. Depuis
oui.
Les années 90, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est vraiment l'activité agricole qui les empêche de nicher?
C'est multifactoriel.
Oui.
On a par exemple une petite population qui a disparu sur les hauts plateaux de la Margeride, qui est nichée dans des petites zones humides.
Mmh.
Où là, ce qui a, entre autres, ce qui a joué, c'est le réchauffement climatique avec l'assèchement estival des zones où nichaient ces oiseaux.
Mmh.
Et qui fait qu'ils sont soumis à une prédation plus importante et qui a fait disparaître ce noyau d'une dizaine de couples en 10 ans.
Ah,
après,
oui.
Il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'au niveau agricole, sur certains sites, il fallait pouvoir gérer et sur certains sites, il était impossible de pouvoir protéger ces oiseaux avec les agriculteurs. On avait sur certains sites des refus vraiment catégoriques.
Mmh.
Il y a eu même au moins un cas de destruction volontaire. Donc il y a une combinaison de plusieurs facteurs.
Mmh.
qui font que ces oiseaux ont disparu. Ce qui doit jouer aussi, là aussi, on va en savoir plus dans les années à venir avec les résultats de l'enquête qui a eu lieu ces dernières années, c'est qu'il y a un déclin global de ces espèces au niveau national et même dans pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. En tout cas, pour l'instant, on le sait en Espagne, on a des chiffres et on va bientôt les avoir en France. Et quand il y a un déclin global, ce sont souvent d'abord les zones qui sont en marge. Et en Lozère, on est concerné. Ce sont les zones qui sont en marge où les oiseaux disparaissent en premier.
Qu'est-ce que ça veut dire, les zones en marge, du coup ?
Des endroits où, en fait, on est en marge de l'aire de présence. C'est-à-dire, pour le busard cendré, il y a une population importante en Auvergne, mais qui est centrée donc plus sur sur la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Mm-hmm. Et nous, en fait, on récupère en Lozère quelques couples qui sont en marge de ce noyau principal.
D'accord.
Et ce qui fait que c'est là qu'ils risquent de disparaître en premier. Et autre chose qui est inquiétante, c'est qu'au niveau national, en même temps qu'il y a ce déclin en Lozère, il semble que les oiseaux se concentrent dans des zones où il y a des opérations de protection depuis des décennies et qui tournent bien avec les agriculteurs, dans des grandes zones céréalières. Mmh. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une répartition globale de ces oiseaux qui s'amoindrit. Et donc, ça fait une fragilité.
Oui, forcément. Mmh. D'accord. Et est-ce que c'est possible d'expliquer aux gens comment on peut reconnaître un busard Saint-Martin ou un busard cendré, ou c'est trop compliqué là comme ça à la radio ?
Alors un busard Saint-Martin et un busard cendré, les mâles, on peut réussir à les identifier. Alors déjà, globalement, il faut savoir que ce sont des rapaces qui la plupart du temps font des vols planés avec quelques battements d'ailes, souvent au ras des champs ou des landes. Ils oui. sont rarement aussi hauts que les autres rapaces. Ils sont à une hauteur en moyenne de 2 à 3 mètres. Mm-hmm. Et donc, c'est une longue quête. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour trouver des petits rongeurs. Les femelles se reconnaissent qu'elles sont brunes avec le croupion blanc. Quant aux mâles, ils sont gris, un dimorphisme sexuel très, très important. Ils sont gris avec le bout des ailes noires. Et la différence entre le cendré et le Saint-Martin, c'est que le Saint-Martin a plus les couleurs d'une mouette ou d'un goéland. C'est-à-dire un gris très très clair,
oui.
avec le bout des ailes noires. Et que le busard cendré, comme le dit son nom, c'est un gris qui est plus prononcé. Mais pour les identifier, il faut quand même un petit peu d'expérience.
C'est ça, mais a priori, c'est quand même des rapaces qui volent plus bas. Tout ça, c'est quand même un indice intéressant.
Voilà.
Ouais. Ok.
Qui volent très bas la plupart du temps et qui ce sont les seuls rapaces qui nichent au sol. Donc
oui.
en Lozère, on avait des nids dans 3 milieux différents, dans les Landes à Genêt plus épineux.
Ouais.
On en a toujours. On en avait, ils ont disparu dans des petites friches humides, des prairies naturelles humides, qui étaient des délaissées, qui n'étaient pas généralement pâturées ni fauchées car trop humides. Donc là, sur ces zones-là, ils ont disparu. Et après, on en trouve encore quelques couples dans les cultures.
D'accord.
Donc là, ça peut être dans des prairies artificielles.
Ouais.
Et là, la difficulté, c'est que les prairies artificielles sont les premières qui sont coupées par rapport aux céréales. Donc les nids sont souvent juste installés. Les femelles viennent juste de pondre. Il faut avoir localisé le nid, contacter l'agriculteur pour éviter de se faire prendre par les travaux agricoles.
Ouais.
Pour pouvoir sauver le nid. Dans les céréales, généralement, on a un peu plus de temps puisque les moissons sont plus tardives par rapport aux fourches.
Mais c'est quand même dommage, je pensais au râteau-pied. C'est quand même dommage la disparition des busards, non, par rapport au râteau-pied ?
Oui, c'est sûr qu'ils jouent un rôle. Ce sont des auxiliaires des agriculteurs puisqu'ils mangent exclusivement des rongeurs.
En fait, ils sont là pour vous aider.
Voilà.
Ne les chassez pas.
Voilà, ce ne sont pas forcément les gros râteaux-pieds qui sont un peu trop gros pour eux. Les busards sont quand même des rapaces, même s'ils ont une envergure de 20 mètres. Au niveau poids, ça tourne entre un mâle de busard cendré, 250 grammes, et une femelle de Saint-Martin, qui est la plus lourde, ça monte à 650 grammes.
Et oui, c'est tout léger, ouais.
Donc c'est plutôt le campagnol des champs, mais qui est régulièrement associé aux râteaux-pieds dans les cultures.
Oui, pas forcément la différence,
voilà.
Effectivement, ouais.
Voilà.
Ouais. On parle de râteau-pied de manière générale. Finalement, c'est devenu un terme générique, le râteau-pied.
Et pour une famille de busards cendrés, sur une saison de reproduction, c'est plus de 2000 petits rongeurs qui sont consommés pour les adultes et les jeunes.
Donc très intéressant pour les cultures, ces animaux-là, ces rapaces-là. Donc c'est important de les préserver. Mmh. Et les vautours, alors, on a la LPO Grand Causse pour ça, non?
Oui, alors la LPO Grand Causse, depuis de longues dates, depuis la réintroduction des vautours fauves dans les Cévennes, fait un suivi de ces oiseaux. Ce sont eux, avec le Parc National des Cévennes, qui suivent, donc qui connaissent le nombre de couples nicheurs, le nombre de jeunes à l'envol, qui au début baguaient tous les jeunes, et maintenant, vu la croissance de la population, bague un échantillon de jeunes. Mmh. Et donc avec cette population qui reste quand même confinée au niveau reproduction dans les gorges de la Jonte et de la Dourbie.
D'accord.
Et un peu aussi dans les gorges du Tarn.
Ok, bon, pour la reproduction. Mais après, on sait qu'ils vont très loin.
Oui.
Ils se déplacent beaucoup.
Ils peuvent aller très très loin puisqu'ils vont régulièrement, en tout cas, dans une bonne partie de l'Auvergne.
Oui.
Moi, habitant à Ribben, dès qu'il commence à faire chaud, je les vois passer très haut dans les ciels pratiquement tous les jours, mm-hmm. en direction du nord. Et certains oiseaux vont même beaucoup plus loin, puisque, bon, ça c'est une information malheureuse, mais le gypaète barbu, qui fait partie de la famille des vautours, un oiseau qui avait été relâché dans les Cévennes, dans le Vercors,
oui.
il y a, je crois que c'est l'année dernière, a été retrouvé mort, percuté par une éolienne en Hollande.
En Hollande.
Donc ils peuvent aller très très loin.
Ah oui, effectivement, oui. Donc ça veut dire qu'il est relâché là, mais qu'après il va où il veut finalement.
En fait, les vautours, ils ont une période pendant laquelle ils sont bien sûr immatures, et donc avant de se reproduire, ils peuvent aller très très loin.
D'accord.
Certains restent plus casaniers, en parlant des gypaètes barbus, qui restent plus dans le secteur des causses et des gorges, mais il y en a qui peuvent aller très très loin.
D'accord.
Et pour les vautours fauves, c'est un autre fonctionnement, puisque là, le vautour fauve, c'est un rapace colonial. Mm-hmm. Donc eux, souvent, ils se déplacent en groupe.
Oui.
À la recherche de leur pitance, donc à la recherche de carcasses.
Donc quand on voit des groupes, c'est forcément du vautour fauve, en fait.
Quand on voit un groupe, la plupart du temps, oui.
D'accord.
Les autres espèces de vautours, que ce soit le gypaète barbu, le vautour moine
et
le percnoptère. Le percnoptère, il n'y a que deux couples dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Le gypaète barbu, il y a quelques individus, il n'est pas encore nicheur. Mm. Et le vautour moine, ça doit tourner autour d'une quinzaine de couples dans le secteur causse et gorge.
Alors, on entend de plus en plus, notamment dans le milieu agricole, des gens qui disent que... Alors, il y a plusieurs choses. On entend régulièrement dire que les vautours n'ont plus assez à manger. Donc, du coup, du fait qu'ils se seraient trop développés, la population de vautours se serait trop développée en Lozère. Et du coup, ils n'auraient pas suffisamment à manger. Et du coup, ils s'attaqueraient aux animaux vivants. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est absolument erroné comme manière de voir les choses. En fait, le vautour fauve adapte sa reproduction aux disponibilités alimentaires. Mmh. En fait, il y a un suivi. Donc, on sait précisément combien il y a de couples nicheurs. La colonie est bien suivie. On sait ce qu'ils mangent. Et il y a même eu une analyse qui est faite régulièrement pour évaluer les disponibilités alimentaires sur tout le territoire où ils vont chercher leur de quoi se nourrir.
Donc en fait, ils ne se reproduiraient pas s'ils n'avaient pas suffisamment à manger sur le territoire,
voilà.
On est d'accord.
Voilà.
Hein,
si quelquefois ils manquent de nourriture, ils vont faire moins de jeunes, il y aura moins de couples qui vont nicher.
Tout
donc,
simplement.
Si pendant un certain temps, pendant pas mal d'années, les colonies ont connu une croissance assez importante parce qu'il y avait une disponibilité alimentaire assez importante au niveau des carcasses, que ce soit d'animaux domestiques ou d'ongulés sauvages. Et aujourd'hui, la croissance ces dernières années s'est ralentie parce qu'on approche d'un système, d'une situation d'équilibre entre la population présente et les disponibilités alimentaires.
Donc la population a baissé ces dernières années, c'est ça que tu es en train de dire?
Non, elle n'a pas baissé, c'est la croissance qui est moins importante.
Ah, d'accord.
Donc, c'est
ça croît moins vite.
Voilà, c'est
okay.
ça.
OK. Enfin, il y a, oui, oui il croit, enfin, la population croît moins vite, mais n'a pas nécessairement baissé.
Ce qui, c'est aussi ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que quand on habite la Lozère, quantitativement, ça peut des fois donner l'impression que c'est le rapace le plus abondant en nombre.
C'est-à-dire qu'il est très présent. On peut pas le louper, en fait, quand il est là.
Il est très, très grand. Et c'est vrai que j'ai pas le chiffre précis, mais si on réunit, si on additionne les couples nicheurs, les jeunes à l'envol de l'année et les immatures, bon, c'est sûr qu'on passe le millier d'individus. Je pense qu'on est à plus de 2000. Mais il faut savoir que le vautour fauve en France, il est présent uniquement sur 3 zones. Il y a ici le secteur des gorges du sud du massif central. Mmh. Il y a quelques colonies dans les Pyrénées. Et maintenant, il y en a aussi, depuis quelques années, il y en a aussi quelques colonies dans les Alpes. Il n'y en a nulle part ailleurs.
Donc on a beaucoup de chance, en fait.
Ben, plutôt, oui.
C'est ça, en fait, dont il faudrait se rendre compte, finalement.
Voilà.
OK. Et donc, que répondre aux gens qui pensent que le vautour, aujourd'hui, s'attaque à... Bon, alors, soit des veaux qui viennent de naître dans les prés, à l'extérieur, ou bien à la mère qui est en train d'évacuer le placenta. Moi, j'ai entendu des choses assez extraordinaires, quand même. Donc, le vautour s'attaquerait à la mère en train d'évacuer... Enfin, la vache en train d'évacuer le placenta et la tuerait pour la manger.
Bon, alors ça reste à prouver. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée fiable à ce sujet. On sait que les vautours mangent les placentas.
Voilà.
Et on sait que tout ce qu'ils mangent, on parle de cadavres. Donc pour un vautour, c'est quelque chose qui est immobile, mais pendant une longue période.
C'est-à-dire
C'est-à-dire
que ça ne bouge plus, quoi.
Voilà.
Sinon, il ne va pas y aller, le vautour.
Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il repère un animal qui est immobile et couché au sol, il va y avoir d'abord une période d'observation très, très longue.
D'accord.
Très, très longue selon les cas de figure, notamment ce qui va jouer. Il y a l'observation pour eux d'être sûr que l'animal pour eux est mort, et s'il est immobile... pour eux, c'est lié à la mort. Mais ce qui joue aussi, qui fait que ça va être plus ou moins long avant qu'ils descendent sur cet animal, ce sont les conditions d'accès, oui, les conditions atmosphériques pour pouvoir décoller.
Oui, parce qu'il ne peut pas repartir de n'importe où le vautour après.
Voilà. Ce qui veut dire que par rapport aux agriculteurs, ce qui est important, c'est qu'ils fassent remonter des données très objectives, qu'ils puissent être présents quand les vautours s'approchent et vont au sol pour s'attaquer à un animal, c'est-à-dire pouvoir dire exactement ce qui se passait, l'état de l'animal.
Dans quel état était l'animal, voilà, au moment où ils ont vu les, voilà, vautours arriver.
Après,
ils peuvent s'approcher des vautours sans risque, on est bien d'accord.
Il n'y a aucun risque.
Voilà.
Il n'y a aucun risque.
Ça peut être impressionnant,
ces
bêtes à terre.
Ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que quand ils sont nombreux et qu'ils ont commencé ce qu'on appelle une curée, c'est-à-dire à manger l'animal mort,
oui,
ils ont du mal à redécoller. Donc, ils ont une distance de fuite qui est beaucoup plus faible que les autres oiseaux. Mm. Mais il n'y a absolument aucune crainte à avoir. Même si on les a quelques mètres, ils ont beaucoup plus à craindre que nous, que l'inverse.
Oui.
Après, ce que je dirais, quand même, dans ce, au niveau de ces rapports entre les vautours et les bêtes d'élevage, c'est qu'il y a certains cas où il faut quand même être, si possible, présent. C'est notamment au moment des naissances,
et oui,
où des veaux peuvent être alors soit en mauvais état de santé ou étourdis pendant un moment.
Ah oui.
Et j'ai pu voir ce genre de cas de figure, pas avec une attaque de vautours, mais avec des veaux qui se retrouvent, en fait, écartés de la mer par un fil. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des endroits où, en fait, les vaches sont mises avec leurs veaux et sont parquées uniquement avec un seul fil électrique. Les vaches n'en sortent pas, mais les veaux, oui.
Ah.
Et si le veau s'écarte de la mer et qu'il lui arrive un souci,
oui,
qu'il a un problème et qu'il ne peut plus bouger,
oui,
ça peut être un accident, ça peut être une maladie, quelque chose où il ne serait pas encore mort, on pourrait encore le récupérer. Si la mère ne peut pas aller vers lui,
oui,
les vautours, au bout d'un moment, si ça ne bouge pas...
Ils vont y aller.
Voilà. Mmh. Et si après, quand ils vont s'approcher de lui, il ne bouge toujours pas, bon, c'est qu'il a vraiment un gros problème. Là, dans ce cas-là, ils peuvent l'attaquer, alors que dans ce cas de figure, la mort est en train de venir,
oui,
mais n'est peut-être pas encore là.
D'accord. Oui, c'est le seul exemple où, effectivement, on pourrait imaginer...
Voilà, oui.
Mais bon... Voilà, là, la contrainte, entre guillemets, pour l'agriculteur, parce que ça relève quand même de son métier d'éleveur, c'est d'être, oui, présent quand ces animaux donnent naissance. Alors oui. Après, ça peut arriver, bien sûr, de pas pouvoir être là sur le moment, mais c'est quand même la règle qu'il faut se fixer, essayer d'être là au maximum pour prévenir.
Voilà. Et donc, je.
Tout type de soucis, bien sûr, hein, voilà, pas les retours.
J'insiste, c'est pour dans le cas de figure où le veau aurait un problème.
Voilà, c'est ça.
S'il n'a pas de problème et s'il est avec sa mère, s'il est en bonne santé,
il n'y aura pas de vautour.
Il n'y aura aucun souci.
Tout simplement. Ok. Le vautour est un nécrophage, et est-ce qu'il est possible, scientifiquement parlant, qu'il devienne un prédateur? Tiens, est-ce qu'il pourrait évoluer au niveau des mœurs?
Non, c'est impossible, parce qu'en fait, il n'est pas équipé, il n'a pas les serres qu'un aigle royal pour pouvoir attaquer et tuer des proies. Il est juste équipé au niveau du bec pour pouvoir réussir à accéder à une bête qui est déjà morte en passant par les orifices préexistants.
Ouais.
C'est-à-dire soit par la bouche, par les naseaux ou par l'anus. Et ils ne sont pas du tout équipés au niveau des serres pour réussir à tuer des animaux, à la fois au niveau des serres, mais même au niveau des capacités de vol. Le vautour fauve est un oiseau lourd et qui manœuvre difficilement. Et qui est aux antipodes d'un aigle qui a des capacités de vol pour pouvoir capturer des proies vivantes.
Ouais, il est lourd le vautour, il pèse combien?
Alors le vautour c'est aux environs de entre 6 et 8 kilos.
Ah oui quand même.
Oui.
Ah oui, c'est impressionnant, oui.
Oui, oui. Le vautour moine qui est plus rare, lui est un petit peu plus lourd et si je me souviens bien, lui il peut atteindre 9 ou 10 kilos.
Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'envoler en fait, qu'il leur faut un grand truc.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vautour, on peut essayer quand même simplement de se mettre à sa place. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, tous les jours, on va, que ce soit à la boucherie, si on mange de la viande ou au magasin, tout ça, on va se nourrir, il n'y a pas de problème, on mange tous les jours.
Oui.
Lui, il ne mange pas tous les jours. Ah. Il peut être 15 jours sans manger. Donc
il faut qu'il ait des réserves, quoi.
Il faut qu'il ait des réserves. Ça veut dire que quand s'offre à lui une possibilité de manger, on peut dire qu'il va se gaver.
Par
nécessité, il va se gaver. Donc il va prendre beaucoup de poids. Et si les conditions atmosphériques ne sont pas bonnes, qu'il n'y a pas de vent pour qu'il puisse redécoller facilement, eh ben, il va avoir quelques soucis. Il va devoir aller à pied, si on peut dire, jusqu'à un endroit surélevé pour essayer de prendre une ascendance.
C'est pas facile pour le vautour quand même, hein? Pas non, tant que ça, en fait.
Moi, personnellement, j'aimerais pas rester 15 jours sans manger.
Ouais, sans manger, ouais, ça c'est clair.
je rajouterais quand même un dernier élément qui est important, c'est que le vautour est ce qu'on appelle un cul-de-sac bactériologique.
Oui.
C'est-à-dire qu'une carcasse qui peut être source d'épidémie.
De pollution des eaux.
Voilà. Lui, il va l'éliminer parce qu'en fait, lui, il ne craint rien au niveau des sucs digestifs. Il a les sucs digestifs les plus puissants du règne animal.
D'accord.
Donc, tout ce qu'il va avaler va être détruit par tout ce qu'il a dans son estomac. Et donc, ça, c'est un rôle qu'il ne faut pas négliger, qui est important au niveau sanitaire.
Oui.
Et en plus... certains agriculteurs, notamment dans la zone des Causses, ont eu une autorisation préfectorale pour en fait mettre en place des placettes d'écarissage naturel. Les vautours viennent manger, donc c'est uniquement pour les brebis. Et en fait, ça leur permet à la fois de ne pas faire appel à l'écarissage, c'est-à-dire un camion qui va faire des centaines de kilomètres en venant de Saint-Chély ou de plus loin pour récupérer la carcasse, mais qui en plus, ça permet à l'agriculteur d'avoir une petite réduction concernant il y a une taxe qu'ils doivent payer au niveau de l'écarissage.
Ah bah oui, l'écarissage n'est pas gratuit.
C'est la taxe volontaire obligatoire, enfin un drôle de nom un petit peu bizarre. Si je me souviens bien, ils ont une réduction moins de 50% sur cette taxe à partir du moment où ils ont une placette d'écarissage.
Puis c'est quand même
naturel.
Super pratique pour ceux qui ont ça à côté quand même. Voilà. C'est vachement plus simple que d'appeler l'écarisseur.
Voilà.
On est d'accord.
Oui, oui.
Et le vautour nettoie.
Le vautour nettoie.
Voilà, ça c'est chouette. Très bien, bah merci beaucoup pour...
Avec grand plaisir.
Et à bientôt alors sur une sortie naturaliste...
Avec plaisir, une prochaine.
Alors voilà, notre émission est terminée. J'ai laissé Jackie travailler à sa réunion. Moi, je vais pouvoir aller me promener. À très vite dans Cultivons notre jardin. Merci.